que je garde au cœur,
une plaie ouverte.
Bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'en fait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Le soir quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je me suis jamais rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton devant le résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en supprimant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs de CIVIPACEM, l'émission antimilitariste sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, nous avons en notre compagnie Marie, que vous connaissez déjà, et un invité très spécial, Milomir Kavachevich, dit Strajny, un photographe engagé pour la paix. Je vais leur passer la parole pour qu'ils nous expliquent mieux de quoi il s'agit son travail. Et en plus, ils nous ont apporté une bonne collection de chansons engagées que nous allons écouter attentivement, qui sont dans une autre langue que je ne connais pas. Et donc, ils vont nous essayer de traduire, expliquer un peu et contextualiser ces groupes des pays ex-Yougoslaves, si je ne me trompe pas. Et voilà, je pense qu'en ce moment, nous avons beaucoup d'auditrices et auditeurs qui sont en train de nous entendre. Une petite pensée pour Bernard, qui n'a pas pu malheureusement être là aujourd'hui, mais qui sera certainement en train de nous écouter en ce moment.
Tous et à toutes. Alors nous revoilà pour une nouvelle émission. concernant l'ex-Yougoslavie. Donc la dernière fois, nous avions parlé des mouvements antimilitaristes à Zagreb. Et on revient avec Milomir Kovacevic, voilà, photographe engagé pour la paix. On reviendra sur son parcours à travers toutes ces années dans l'heure qui suit. Et comme l'a dit Pedro, on vous présentera une série de chansons qui nous tiennent à cœur. Alors, nous allons revenir sur le parcours de Milomir dans une première question. Milomir, qui a débuté la photographie à la fin des années 70, si je ne me trompe pas, au sein du club universitaire de photographie de Sarajevo. Et il a notamment travaillé pour la presse yougoslave. Donc Milomir est né à Čajniče, dans un village aux frontières du Monténégro et de la Bosnie, situé à l'époque donc dans la partie orientale de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Donc c'est l'une des républiques fédérées de la République fédérative populaire de Yougoslavie. Donc Milomir a débuté la photographie, comme je disais, à la fin des années 70. Et donc nous allons partir de son parcours pour arriver aux questions antimilitaristes, voir un petit peu comment il perçoit son travail de photographe. Mais avant de parler de ton parcours, Milomir, peux-tu nous parler brièvement de ton enfance au sein de la Yougoslavie? C'est-à-dire à partir de souvenirs, d'images de ton enfance. Qu'est-ce qui te reste en fait de ton enfance?
Bah, ça reste beaucoup de choses. On a rien oublié. Moi, je suis né en Yougoslavie. Moi, je n'ai pas à l'époque partagé les pays Monténégro, Bosnie, Serbie. Même on savait très bien d'où on vient, mais on était grandi et aussi éduqué dans l'esprit yougoslave. Et je restais toujours aujourd'hui dans l'esprit yougoslave. Bah, écoutez, j'ai grandi, on est revenu à Sarajevo, moi j'ai eu 4-5 ans et j'ai commencé ma ville, école, lycée, après la photo, tout ça à Sarajevo. Et Sarajevo, c'est vraiment ma ville. Il n'y a rien de spécial, j'ai grandi là-bas, j'étais plutôt bon élève jusqu'au que j'ai commencé la photo. Après c'est la photo prise, qu'est-ce qu'il faut prendre, que j'ai arrêté de mes études d'électrotechnique et je me suis consacré à la photo. Au début c'était juste amateur, dans photoclub, on a organisé un petit peu des expos, quelques voyages, mais comme j'ai grandi, aussi j'ai grandi photographiquement, j'ai commencé, au début je faisais photos des marchés, des villages, de la famille, des amis, mais doucement j'ai commencé après de faire les photos de concerts, de pièces de théâtre, tout ça. Et après, un jour, j'ai commencé à travailler pour la presse et ça a changé beaucoup. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens différents. Ouais. Mm-hmm. On a eu une vie, on peut dire, meilleure vie, je ne sais pas, éducation. On était tellement, disons, libre dans tous les domaines. Malgré tous les gens pensent qu'on était dans le communisme, dans la dictature. Souvent ils parlent, mais ils ne savent pas de quoi parlent. Ils ont juste appris ça dans l'école ou par rapport à des histoires, différentes histoires. Mais non, on était quelque chose d'autre.
Mmh. Oui, donc Sarajevo, c'est une ville que tu as beaucoup photographiée. Tu y as grandi, comme tu l'as dit, tu as fait tes armes. À quoi ressemblait le Sarajevo yougoslave? Qu'est-ce que tu retournes? Je sais que tu retournes souvent à Sarajevo. Si tu devais décrire le Sarajevo de cette époque-là, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais?
Ben, on était, je ne sais pas comment expliquer tout ça, on était ouvert déjà, mm-hmm. pour tout. Comme on était déjà mélangé, à l'époque ce n'était pas comme aujourd'hui, on était vraiment mélangé, on a vécu ensemble, pas aujourd'hui on vit une à côté des autres. À l'époque qu'on a vécu ensemble, on ne pouvait pas savoir qui est qui. On a toujours, on a eu la même éducation, la même manière de s'exprimer. On a, dès que quelqu'un vient de l'extérieur, on était tellement... Il était toujours bien reçu. Bah, c'était la folie. C'était, dès que tu sortes dans la rue, tu te promènes comme, hein, comme dans le cinéma de Fellini, de Amarcord, de tout ça. C'est vraiment que des blagues, de les mots sympas. C'est quelque chose, on n'était pas riche matériellement, mais humainement et tout ça. Mm-hmm. On a eu tellement de richesses, on a sorti chaque soir, on n'a pas posé de question, est-ce que tu as l'argent qui va payer, comment on va régler ça, c'était comme ça, on y va, et mm-hmm. ça marchait super bien.
Mm-hmm. Tu commences à photographier à peu près vers la fin des années 70
J'ai commencé, apprendre, je ne sais pas encore. Ça, c'était début. Je suis entré dans un photoclub pour apprendre. Il y avait les cours pour la photo pour apprendre. Les gens que je racontais à cette époque, ils sont, même aujourd'hui, ce sont mes amis. Ça veut dire après plus de 45 ans, mm-hmm. on est presque comme une famille. Même on est maintenant partout dans le monde, Australie, Pays-Bas, Paris, Canada, les États-Unis, j'espère, Prague, Istanbul, mais Israël, mais on se voit régulièrement, on est en contact. Parfois, si quelqu'un voyage, dommage, je vais voir un ami qui passe à côté de Paris, va juste entrer à Paris pour qu'on se voit boire un verre. Si je voyage quelque part, je sais où que je peux dormir presque dans toutes les villes du monde, ça mm-hmm. va, c'est pas... Mais au début, c'était juste comme ça. Après, j'étais obligé d'aller dans l'armée. Et après l'armée, après 81, j'ai commencé un petit peu à faire mes études, mais j'ai compris que ce n'était pas pour moi.
Donc, tu as continué dans
Oui, on a resté. On a eu la chance que notre club, c'était dans le centre de Sarajevo. Et à l'époque, l'État, elle a donné possibilité pour tous les gens qui ont envie de faire quelque chose. On a eu d'autres clubs. Après, à côté de nous, il y avait de la radio, il y avait automoto, il y a tellement de choses pour tout le monde. Bah, c'était... Au début, c'était 12e maison, mais après, je ne savais pas est-ce que c'est première ou 12e maison, parce que souvent, on a dormi là-bas, on a fait tous les fêtes, on a fait beaucoup d'expos, tout ça. Bah, c'était une époque magnifique.
Mm-hmm. Donc, tu as continué donc, avec la photographie, et tu as pris en photo, notamment, tu as fait beaucoup de portraits de personnes, et en noir et blanc. Alors, je sais qu'on t'a déjà posé la question par rapport au noir et blanc, mais est-ce que tu pourrais nous présenter ton travail de photographie et les thèmes que tu as évoqués à travers ta carrière de photographe Alors, je sais que tu as fait beaucoup de choses, mais déjà, les portraits...
Il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'aime bien les gens. Je photographie beaucoup. Je suis assez communicatif. Au début, c'était plutôt marché. J'adore marcher au pouce, marché traditionnel, les gens dans la rue. Après, dès que j'ai commencé les concerts, j'aimais bien photographier les musiciens sur la scène, mais aussi les gens dans le public. Je connaissais presque tout le monde. Après, quand j'ai commencé à faire dans les journaux, après, j'étais obligé de voir chaque match de foot, comme ci, comme ça. Mais les supporters, je connais, il y a beaucoup d'amis dedans. Après, j'ai photographié, je faisais beaucoup de séries. Comme ça, ça a commencé. Après, par rapport au boulot dans le journal, j'ai profité beaucoup pour voyager. Après, je faisais les prisons, je faisais... comme c'était un petit peu la fin du communisme, il y avait maintenant ces nouveaux partis politiques, élections, tout ça, beaucoup de manifs. J'étais un petit peu tous les choses qui sont passées à Sarajevo. Moi, j'étais dedans. Mm-hmm. J'étais pas obligé par rapport au journal, mais moi, je me dis, ça c'est une époque importante dans nos vies, dans la vie de notre pays, dans la vie de notre ville. Mais je dis, si je suis photographe, si je fais pas ça, c'est, il faut faire quelque chose d'autre. Mm-hmm. Et moi, j'ai continué de faire un petit peu. J'ai déjà connu tout le monde un petit peu. Il fallait juste sortir dans la rue, quelqu'un qui dit « Ah, voilà, là-bas, il y a un concert, là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a une fête en bas, il y a une pièce de théâtre. » Après, j'ai commencé un petit peu de photographie aussi pour les gens. Après, il y avait, je ne sais pas, comme j'ai connu beaucoup de monde, j'étais ami, donc « Ah, il y a un mariage, tu peux venir comme ça, après anniversaire. » Jusqu'à la guerre, j'ai photographié vraiment tout, et j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Mm-hmm. Presque chaque semaine, une, deux fois, j'étais dehors de Sarajevo. Et c'était vraiment une vie, on a vécu à 100%, parce qu'il y avait tellement, c'était une époque assez, peut-être devant chaque crise, il y a eu la vie qui est un petit peu tellement forte, on n'a presque pas dormi. Partout, toute la ville, c'était tous les cafés, tous les bars, tous les restos, c'était blindé. Et c'est, mm-hmm. c'était top. Et on a eu la chance aussi que les amis, il y a eu la Galerie Rouge où était le club, c'était un ami, Vesso Jorem. Comme ça, j'ai eu ouverture là-bas, je pouvais faire mes expos dès que je veux quelque chose. Mais souvent, c'était les choses actuelles, soit les concerts, soit les supporters, soit les graffitis, soit n'importe quoi. Qu'est-ce que c'était actuel dans la ville à cette époque? Moi, j'ai eu besoin de 2-3 jours pour faire le tirage et on a fait toute cette expo. Et comme Vesso, il m'a donné carte blanche pour inviter toutes mes amies pour le vernissage. Juste, il fallait signer à la fin la note. Voilà, merci. C'était vraiment top, mm-hmm. top.
Ouais, donc tu as photographié alors, beaucoup de personnes et notamment donc, ces manifestations pour la paix. Et donc je me suis souvenue que tu avais, alors j'ai vérifié, mais en 2012, si je ne me trompe pas, tu as organisé une exposition. Donc, qui s'intitulait Jelialismo Samomir. Oui, oui. Donc, en français, donc, on voulait simplement la paix.
Seulement la paix.
Seulement la paix, pardon. Et je voulais savoir comment t'es venue l'idée de faire cette exposition et quelles ont été les réactions du public.
Bah, l'idée, moi, j'ai déjà fait ça à cette époque, tout de suite. Et j'ai vraiment suivi tous les mouvements à Sarajevo pour la paix. Partout dans la... En général, c'était les partis gauche qui sont organisés, où j'ai eu toutes mes amies qui sont organisées cette manif. Il y avait, à Sarajevo, il n'y avait rien qui pouvait se passer que je ne suis pas là. Et j'ai photographié, même à Sarajevo, déjà, j'ai fait, comme c'était concert pour la paix, UTEL. Tout de suite, je faisais l'expo dans 3 jours en bas à la Galerie Rouge. Et après, j'ai gardé ça. Comme je suis parti, j'ai passé toute la guerre à Sarajevo. Je suis parti 95 pour Paris. Je ne sais pas à quelle époque j'ai commencé. Je suis revenu 2008 avec l'expo Sarajevo dans le corps de Paris. Et après 2010, j'ai photographié première élection. Comme il y avait à nouveau les élections, j'ai refait l'expo à Sarajevo de première élection 90 à Sarajevo, 18 novembre. Et après j'essayais de faire doucement, étape par étape, chronologiquement, qu'est-ce que s'est passé. Et 2012, je pense que j'ai fait à la Galerie Nationale à Sarajevo Grand Expo, qui s'appelle On voulait seulement la paix, et c'était vraiment quelque chose. Il y a eu beaucoup de gens qui ne savaient pas. Aujourd'hui, il apprend de nouvelles histoires, mais il ne parle pas de ça. Mm-hmm. Souvent, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont été pas nationalistes, qui sont cherchés, voulaient faire la paix, qui sont pensés qu'ils pouvaient simplement, avec manif, avec image de Tito, tout ça, avec les paroles, faire quelque chose. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et c'était vraiment pour les gens. Il y avait beaucoup de gens, des lycéens, de tout ça, les écoles qui sont venues. Ils se sont dit, oh, ils ne regardent pas. Ils disent, mais on n'apprend pas ça à l'école. Ce n'est pas possible, comment ça? Je dis, bah, oui, ça c'est vraiment la vérité. On était comme ça à l'époque, mais malheureusement, beaucoup de gens qui sont perdus, qui ne sont pas nationalistes, qui sont été yougoslaves, mariage mixte, tout ça, tout le monde est parti du pays parce qu'on ne voulait pas accepter pouvoir nationaliste. Mm-hmm. Mais j'étais vraiment chaque manif, j'étais là. Et dernièrement à Dubrovnik, en mars maintenant, je faisais la même expo.
Ah oui, donc tu as refait cette expo-là.
J'ai refait cette expo à Dubrovnik.
Et le public à Dubrovnik.
C'était aussi un festival qui a duré 4 jours. Comment ça s'appelle Dubrovnik. C'était sans regarder, avec toutes ces paroles, toutes ces mots. Elles se sont dit, waouh, c'est... Et après, vêtements, cette époque, tout ça, les visages, comme c'était quelque chose de... C'est vrai, c'est un autre siècle, un autre millénium. Mais c'est vraiment, le public, c'était pas choqué négativement, mais positivement, comme on en était engagé à cette époque.
C'est intéressant de voir que tu as exposé donc en 2012 et là, donc cette année, tu dis, donc 2025. Voilà. Les photos de cette exposition ont été prises il y a 20 ans, donc c'est avril
92, il y a plus de 20 ans.
Et tu donc des rassemblements de en protestation hein, de citoyennes et de citoyens de Sarajevo qui voulaient empêcher la guerre parce qu'on sentait bien que la guerre allait arriver. J'ai lu que l'exposition contenait à peu près 300 photographies montrant les visages en fait de la Bosnie-Herzégovine d'après les élections et d'avant-guerre aussi.
C'est plutôt Sarajevo.
Plutôt Sarajevo.
Ouais.
Mais en fait, que représentent pour toi ces clichés, toi qui as grandi, enfin pour toi, voilà, pour Sarajevo, pour toi, c'est ta ville de cœur et cette période, qu'est-ce que ça représente?
C'est un document. Moi, je viens de faire un catalogue. Maintenant, il y a 450 photos dans ce catalogue. Je voulais garder mémoire pour dire, on était là, c'est pas. On peut dire qu'on n'a rien fait. Parce qu'il y a eu les autres photographes, tout ça, mais ils ont travaillé ça plutôt pour le boulot. Moi, je ne travaillais pas pour le boulot. Moi, je travaillais parce que j'ai pensé que c'était mon obligation de faire ça et de garder ça. Mais c'est vraiment... Aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations, de propagande, comme c'était, comme ci, comme ça, mais la vérité, c'est dans ces photos.
On va faire une petite pause en musique avec une première chanson qui s'appelle Sarajevo Ljubavi Moja, donc Sarajevo Mon Amour, de Kemal Monteno, une chanson de 1976.
Yeah. Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Ispod Trebevića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh slao si mi san. Dječak koji raste zavolio te tad, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja. Kada prođu zime i dođe lijepi maj, djevojke su ljepše, ljubav im daj. Šetalište tamno uz desima zri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokri brijeg. Park i kosa bijeli, al otići će snijeg. Proljeće i mladost ispunit će tad, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje,
On revient vers cette exposition. Donc ce que tu as dit, c'est ce sont des photos principalement de 1991 et 1992.
Entre 6 avril 91 et 6 avril 92, où il y a eu premier tir.
Les premiers tirs qui ont commencé le 6 avril 92.
Holdein.
Est-ce que je te pose la question comme ça, est-ce que tu te souviens précisément de ce jour quand tu as pris ton appareil photo, quand tu es sorti dans la rue, tu étais là le 6 avril 92 à ce moment-là?
Oui, ça c'est un petit peu une histoire spéciale. On était parti trois ou quatre avril, je me souviens pas, à Mostar pour aller à Trebinje. Pour faire le reportage, parce qu'il y a eu déjà des problèmes là-bas, et rédaction, on s'est décidé, il faut qu'aller, on était trois. On est venu à Mostar, après ils se sont dit, vous êtes fous, il ne faut pas aller là-bas. C'est déjà commencé à tirer, comme on n'était pas, journaliste, on n'était pas bien reçu là-bas. Ils se sont dit, c'est mieux que vous rentrez, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai écouté les journalistes et on est rentré à Sarajevo. Et c'était fête l'Aïd Bayram. Et on a ficolé toute la nuit. C'était top, je sais pas, je me réveille. Le lendemain, j'étais déjà à la tête. Wow. Je regarde la télé, je crois pas, je vois à Mostar, à Logor, d'armée yougoslave, il était détruit. Et moi, je ne peux pas rentrer au boulot si je n'ai pas les photos de ça. Et moi, comme ça, je suis rentré à Mostar juste pour faire la photo. Et tout le monde là-bas, ils se sont dit, bah, tu es fou, qu'est-ce que tu fais là-bas, tu as... Je dis, ah, je ne peux pas rentrer à la rédaction si je n'ai pas la photo. Et heureusement que j'ai trouvé un pote qui m'a un petit peu ramené en voiture où je peux photographier en cachette. Et pour rentrer à Sarajevo dans la soirée, c'était détruit la gare, tout. Les gens qui prennent les armes. Moi, je dis, oh là là là, où je suis arrivé. J'ai attendu le bus, train, il n'y avait rien. Et quelqu'un dit, il y a un train jusqu'à une petite ville entre Sarajevo, jusqu'au Konjic. Ok, bah, plus près de Sarajevo, c'est mieux. Après, on arrive à Konjic, il n'y a rien. Ils se sont dit, il y a, à 5 heures du matin, il y a un autre train jusqu'au Hadžić. Moi, j'étais obligé de dormir dans un petit hôtel à côté de la gare. Je me suis réveillé à 5 heures, j'arrive à Hadžić. À Hadžić, je vois là-bas, ça, c'est 5 avril. Et je vois là-bas les gens. Dès que je vois, j'ai vu le meeting avec drapeau yougoslave et images de Tito. Moi, je dis, oh, voilà, c'est le mien. Je suis entré là-bas, je dis, non, non, vous allez où? À Sarajevo. Je peux avec vous? Ah oui, oui, tu peux. Moi, je dis, ben, je suis ça, je suis journaliste, photographe, oui, on te connaît, tu es le nôtre. Et comme ça, je suis entré le 5, direct sur les manifs. Et on est passé la nuit au gouvernement là-bas parce qu'il y avait les gauchistes qui sont voulu renverser les nationalistes, mais il y avait les mecs avec les armes qui sont juste dit, barrez-vous, sinon c'est massacre. Et je ne sais pas, on a tourné un petit peu, et comme ça, c'est, on était le 6 sur place, où sont aussi commencé de devenir les autres manifestants de Dobrinja, je ne sais pas. Ils ont essayé de tirer les Serbes de Holiday Inn. C'était un petit peu organisé avec les polices spéciales, avec tous les polo-criminels qui sont à l'époque, disons, ce n'était pas encore la guerre. Après, ils sont sortis, les mecs, de, les cercles, où ils, les bureaux qui étaient dans l'hôtel, hein, ça a commencé à tirer, comme ça, c'était le premier jour de la guerre, vous savez vraiment. Après, ils sont dit, après, ils disent que ça, moi, je n'ai pas vu là-bas où c'est tiré, vers où sont tombées deux femmes sur le pont de Vrbanja, mais le premier tir, c'était à côté de Holiday Inn. Et j'étais là, et après, sauve-toi. Dès que ça commence bordel, il y a, c'était vraiment bordel, les gens, ils sont courus à gauche, à droite, c'était un petit peu la panique, tout ça, c'était... Moi, je faisais toutes les photos de ça, et après, hop, moi aussi, dégage.
Oui, mais tu as quand même réussi à couvrir le siège pendant toutes les années du siège.
Bah ça, c'est une autre histoire, oui, bien sûr, que j'ai... j'étais un petit peu aussi réfugié dans ma ville. On était dans cette, au début, on était vraiment dans le centre culturel où était notre club photo. Après, ils sont nous virés en septembre 92. On a déménagé sur les Grenades. Mais juste à côté, dans Sloga, on a eu des amis là-bas. J'ai installé mon labo dans les lieux sud, mais on a dormi sur les fenêtres presque ouvertes, juste avec protection en plastique. Et j'ai passé toute la guerre là-bas. Et bien sûr, j'étais chaque jour dans la rue, je photographiais tout. Où je pouvais aller, c'était aussi dangereux, soit de l'extérieur, aussi de l'intérieur. Hein? Mais je suis là aujourd'hui, ça veut dire que ça va.
Tu avais des collègues, tu avais des amis avec qui tu pouvais couvrir, photographier à ce moment-là. Tu n'étais pas tout seul ou tu partais tout seul avec ton appareil photo
Bon, s'il n'y a pas parté, on a vécu, tu dois sortir. Mais moi, j'ai toujours, même maintenant, j'ai mon appareil avec moi. Comme ça, c'est pas... Je photographiais plutôt La vie autour de moi. Moi, j'étais aussi dans le siège, comme tous les autres. Si je suis allé chercher de l'eau pour soit pour boire, soit pour développer les pellicules ou nourriture ou de bois ou je sais pas, c'est pas, j'étais pas étranger ou un photoreporter classique. Même à l'époque, je travaillais pour la rédaction d'Anne. On a eu un petit peu d'obligation, mais c'est plutôt moi qui a eu les idées, qu'est-ce qu'il faut faire, comment photographier, tout ça. Après, il y a aussi des devoirs de rédaction, si on fait un reportage ou interview avec quelqu'un, ou s'il y a eu des concerts, des pièces de théâtre, ou je ne sais pas. Moi, j'étais un petit peu partout, mais je pouvais pas trop aller loin parce que soit il y a l'armée, la police ou il y a aussi des tirs, des snipers, tout ça. Il faut faire vraiment attention à cette époque. Même parfois j'étais aussi blessé, enlevé. Ou... Il y a eu un petit peu tout. C'est la guerre, c'est pour tout le monde, pour moi aussi.
Ah oui, donc tu as vraiment vécu de l'intérieur, voilà, c'est ce que tu dis.
Toutes les choses que je fais, c'est plutôt regard intérieur. C'est pas quelqu'un qui vient d'ici, d'un monde parfait, il fait destruction là-bas. Nous, on a destruction chaque jour, on fait quelque chose dans destruction. Mm-hmm. Mais à cause de ça, il y a eu beaucoup de morts, mais il y a aussi beaucoup de la vie. Souvent, on a vécu, on a eu beaucoup plus de énergie, envie de vivre que je vois ici dès que je parle avec les amis, avec les problèmes, qu'est-ce qu'ils ont là, moi je rigole. Et dès qu'ils commencent à parler, après ils disent ah non, 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 désolé, on ne va pas parler à toi de problèmes qui sont bizarres, tu as connu quelque chose, vrai, nos problèmes sont bizarres.
Est-ce que tu dirais que cette force de vie qui était très présente à Sarajevo, on le voit dans certaines photographies, la force que les gens ont eue de continuer leur vie quotidienne, est-ce que tu trouves que justement pendant le siège, cette force vie-là pouvait aussi symboliser, alors les gens faisaient ce qu'ils pouvaient à ce moment-là, mais aussi une sorte de résistance en fait contre ces nationalismes qui étaient en train de détruire la ville et à travers tes photographies. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as des souvenirs d'images ou de portraits de personnes qui représentaient cette force de vie-là? Est-ce que tu as des souvenirs précis ou est-ce que ça reste flou?
Mais on était libérés de tellement de choses. On était vraiment restés, disons, toutes seules, nous devant tous les problèmes. Et on a vécu vraiment, dans la guerre, on a compris c'est quoi la vraie vie. Parce que maintenant, pas de crédit, pas d'électricité, pas de boulot, rien de tout. Tu fais, après, tu sais qui tu es. Tu sais qui sont tes amis, avec qui tu partages un morceau de pain, avec qui va te couvrir s'il y a des problèmes, qui te donne quelque chose de conserve de sardines ou ça. Ça c'était, parfois, dès qu'on parle avec les gens avec qui j'ai passé la guerre, parfois on parle avec nostalgie, parce qu'on était tellement solidaires. Chaque concert qui était là-bas, ça doit être meilleur parce que demain, tu ne sais pas, est-ce que tu restes en vie? Chaque expo, chaque pièce de théâtre, chaque fête, tout ça, c'était vraiment tellement avec 1000% d'énergie, de volonté, les amitiés qu'on a créées là-bas, ça restait pour la vie. Mm-hmm. Même si on ne se voit pas, disons, 15 ans, 20 ans, mais dès qu'on se voit, on était toujours très heureux de se voir, de parler de souvenirs. Souvent, on parle plutôt des belles choses, des blagues, de fêtes. On parle rarement de morts, de cadavres, de tout ça. Dès qu'on se voit tout de suite, cette énergie de la guerre nous revient un petit peu. Même aujourd'hui, les gens, ils sont bien sûr dans les boulots, dans la famille, tout ça, c'est... les gens ils parlent de que la guerre est finie, solidarité, tout ça c'est fini. Les gens ils sont tout de suite deviennent égoïstes et commencent de chercher que pour soi-même et pas pour tous les autres comme c'était pendant la guerre.
Mmh. Dans cet esprit au collectif en fait, voilà, qui était là, qui était bien présent et oui, donc on parlait des photographies. Est-ce que tu, enfin, en tant que Sarajevien, enfin, tu te considères comme Sarajevien, tu parlais des risques justement face aux snipers, donc tu devais t'organiser quand même.
Bon, c'est pas que des snipers, on sait où ça tire, ou après s'il y a des grenades, tu peux pas savoir où ça tombe. Après, il y a eu aussi dans la ville les gens méchants qui pouvaient être enlevés. Soit pour les travaux forcés sur les premières lignes, soit pour certaines personnes qui sont exécutées. Il y a un petit peu de tout. C'est pas si simple. La guerre, on regarde maintenant souvent les gens noirs et blancs, mais c'était pas que ça. C'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus côté positif, mais aussi côté négatif. Mais
On va faire une petite pause en musique avec une des représentantes, une des chanteuses les plus connues qui s'appelle Amira Medunyanin, avec une chanson qui s'appelle « Što je tužna takova noć ». On vous laisse écouter.
Proći će znam, bez nje ja mrzim svaki dan. Idite svi, do vraga sve, plačem, a nema nje. Proći će znam, bez nje ja mrzim svaki dan. Idite svi, do vraga sve, plače, ma nema nje.
on revient sur ces moments de joie. Je voulais en savoir un peu plus concernant les concerts et les pièces de théâtre. Donc, quand tu allais photographier tous ces artistes, parce que je sais que tu en as photographié énormément, tu retiens quoi, en fait, de ces moments? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué pendant cette période quand même assez particulière?
Mais tous les moments sont là. On ne revient pas si ce n'est pas ça. Mais on était à Obala. Obala, c'est un centre culturel, disons. J'étais avant aussi la guerre et mes amis, ils sont tenus en bar et là-bas, il y a eu souvent des concerts. Alors, là-bas, on a fait la première cinéma de Apollo. Après, il y a eu pas beaucoup de pièces de théâtre là-bas, mais plutôt des concerts. Soit dans le bar, soit dans la scène là-bas. Après, MTV qui a fait des concerts directs là-bas à cette époque avec Moron Brothers, SCH, Les Imaimunes et Sikter. Bon, c'était la folie. Dès que je vois les photos, ça, c'était quelque chose de magnifique. On a passé chaque soir là-bas parce qu'on a là-bas il y a eu de l'électricité, il y a eu de la musique. Ah, c'est tout de suite. Et je pouvais chez Addis et Gilles, je pouvais boire sous la note. c'est la vie. Les amis sont pas ça. Mais tous les concerts, c'est vraiment, dès que je vois maintenant les photos, c'est vraiment magnifique. Cette énergie, tout ça, ça n'existe pas. Après, comme j'ai vécu à Slogam, mon labo, c'était à côté de scène. Et là-bas, c'était dans la pièce où était Mixpult. Il n'y a plus de Mixpult, mais c'est là-bas de moi. Et comme ça, là-bas aussi, j'ai écouté tous les concerts, j'ai photographié. C'est vraiment... on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas ça. C'est vraiment cette énergie, cette volonté de... créer, de vivre les gens juste pour venir voir, juste pour casser la journée où il n'y a que des problèmes. Ça, c'est... tu risques ta vie pour venir voir un concert, voir une expo ou une pièce de théâtre. Ça, je ne sais pas si on parle ici... aux gens, si vous voulez venir pour voir quelque chose, mais vous allez risquer votre vie, je ne sais pas combien de gens vont venir. Mais là-bas, chez nous, dès qu'il y a quelque chose, on est allé, même moi aussi, j'ai organisé les expos, les autres, je ne sais pas, chacun essayait de faire quelque chose que savait mieux faire, parce que tu n'as plus rien, tu restes toi-même. Moi, je faisais les photos, j'ai organisé l'expo, je savais dire, j'ai imité qu'est-ce que je faisais avant la guerre. Et c'est déjà pour beaucoup de gens, voir quelqu'un qui est à côté de toi, qui fait quelque chose avec ses mains, et tout le monde après dit, OK, comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire. Parfois, on a eu, meilleures conditions. Il n'y a pas de, je sais pas, j'ai organisé première grande expo à Collegium Artisticum, je sais pas, 300, 400 mètres carrés, 110 grandes photos. Il fallait trouver les papiers, il fallait trouver l'électricité, il fallait chaque jour aller 3 km pour ramener des bidons d'eau, tout ça pour développer, tout ça. Après, on n'a pas de passe-partout noir. École de Beaux-Arts, mes amis Hassan et Savo. Savo, il y a des papiers. Hassan, il a fait sitôt. On imprime noir. On n'a pas de bougies, on va à l'église orthodoxe. On n'a pas de pétrole. Il y a Sanya Ivic, elle travaille chez nous. Je ne sais pas, IRC, un organisme américain. Je vais trouver. Elle trouve. On n'a pas d'alcool. Il y a Tsenex Milso qui ramène quelque chose. On a besoin pour les bougies, pour poser les bougies, on trouve les plaques pour offset, on a besoin de colorer en noir, on trouve ça. On a vraiment improvisé toute la vie, mais c'était avec volonté. Mm-hmm. On doit faire ça, ça, c'était... Et l'expo, plusieurs expos que j'ai organisées, c'était avec les bougies. Dès que les bougies, c'est fini, l'expo, c'est fini. Et ça a vraiment resté dans, chez beaucoup de monde comme un des meilleurs souvenirs de la guerre où ils sont tellement appréciés, engagement, quelqu'un qui de rien fait quelque chose pour tout le monde.
Mmh. Ouais, donc vous arriviez à vous débrouiller, comme il y avait une grande solidarité, vous arriviez toujours finalement à droite, à gauche, à aller chercher ce qui vous manquait.
Bah, c'était notre vie, même aujourd'hui on fait la même chose, même ici. Mais on a grandi comme ça aussi, on n'était pas quelqu'un qui va pleurer, oui, je n'ai pas ça, je ne peux pas faire. Non, non, on va faire et on y va. Mmh. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ah, tu connais qui? Oui, je sais, là-bas, il y a ça, où il y a ça, Hassan, il y a ça. Après, j'ai changé là-bas, il n'y a pas d'électricité. Moi, je regarde juste la nuit où il y a l'électricité à la porte. Oui, ça va. Et je ramène mon labo. Je peux faire les photos, les tirages chez vous. Oui, on y va.
Donc tu as réussi à faire les tirages donc pendant le siège. Ouais. Tu as réussi quand même à, voilà,
ah oui,
à faire des photos.
Grand tirage, c'est pas un petit tirage, c'est un grand tirage, 50-60, même les tirages de 1 mètre par 1 mètre pour certaines expos, tout ça. C'était vraiment... Maintenant, dès que je regarde, parfois je ne crois pas comment c'était possible, mais on a eu cette énergie.
Mais vous l'avez fait.
Oui,
ouais,
on
a... Ah, vous avez réussi. Ouais, c'est ça qui à chaque fois quand je pense à ce qui se passait et comment les gens arrivaient malgré tout à vivre, c'est ce que tu dis. Finalement, les gens faisaient, ils y allaient et puis ils se posaient pas de questions. De toute façon, il fallait bien, fallait y aller.
Bah, si tu trouves rien à manger, tu restes sans rien manger. Comme ça, il faut sortir dans la rue. Après, dans la rue, tu trouves les infos. Moi, pour les photos, quelqu'un toujours il y a eu. Ils disent tout de suite là-bas, ça, c'est en flamme, là-bas il y a ça, tu sais, tout ça. Et comme ça, je n'ai pas eu besoin d'aller à la rédaction ou de... Il n'y avait pas de télé, radio, oui, parfois oui, parfois non, mais tu sais, tu seule façon de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la ville, tu sors dans la rue et...
Et à ce moment-là, au niveau des médias, comment ça se passait? Donc tu dis qu'il n'y avait pas de télé ou...
Mais, pas, toi... il n'y avait pas d'électricité pour regarder. Ça, c'est le problème. Parfois, on a volé dans la nuit, dès qu'il y a les câbles, parce qu'après, on était à côté de la police. Après, il y a le système, comment on peut voler dans la nuit. Mais après, il faut... À la matinée, il faut enlever tous les trucs. Après, on a bricolé, on a fait... il n'y avait pas de règles, juste. Dès que la guerre a commencé, toutes les règles normaux, ça ne marche plus. Mm-hmm. Maintenant, tu commences de zéro, c'est une règle. Tu vois câble, tu sais que là-bas, il y a l'excès. Comment il faut faire? Il y a des systèmes, comment tu fais dans la nuit, piquer un petit peu d'électricité pour voir peut-être un film, écouter quelque chose ou développer quelques photos. Et la matinée, il faut tout enlever.
Ouais, c'était un système.
Après aussi, je ne sais pas, tu demandes pour les trucs culturels ou ça, il faut toujours penser, il faut trouver système. Mais dès que tu sais... De quoi tu as besoin, tu trouves toujours quelqu'un qui peut te dire là-bas, là-bas, là-bas. Et comme on est vraiment... Après, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Ça veut dire on était dans le centre de Sarajevo. Dès que tu passes de trois fois, tu vois tout le monde. Après, tout le monde te voit et tout le monde sait qui est qui. Après, comme j'étais souvent dans les presses, tout ça, tout le monde me voit derrière là-bas faire les photos. Après, dans les journaux, il y a à Dani, on a fait pas mal de choses. Et parfois, c'était facile, parfois difficile, parfois il y a eu des problèmes. Dès qu'il y a les gens qui viennent d'extérieur, qui ne te connaissent pas, ça c'est... grave problème. Et après, c'est la vie. Il faut se débrouiller.
Est-ce que tu avais des relations avec tes, je peux appeler ça tes confrères, en tout cas, d'autres photographes étrangers, en tout cas qui n'étaient pas de Sarajevo? Est-ce que tu les as fréquentés ou comment ça se passait, vos relations?
Pas beaucoup, presque. Je travaillais presque pas pour étrangers. J'ai eu au début avec, contact avec Luc Delay, c'était un grand photographe. Les autres, j'ai vu un petit peu quelques-uns. Il y a Emmanuel Ortiz, il est ici en France, toujours, on se voit, on est en contact. Les autres, moi, je ne travaillais pas pour l'étranger, je travaillais juste, j'ai eu mes idées, je travaillais mes projets personnels, disons, et je travaillais pour la rédaction, même Luc Delay, après arrivé à Paris, c'est lui qui m'a branché avec les gens dont la photo est très importante, et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à Paris. Pour les autres, Emmanuel, il est sympa, dès qu'on se voit, on picole tout de suite. les autres, pas beaucoup. Pas beaucoup, moi j'étais plutôt avec les gens de Sarajevo. Et après, il y a eu un journaliste italien, Piero Del, je ne sais pas comment c'est, il a fait un livre, il était sympa. Après, je travaillais pour le bataillon français, un petit peu, ils aussi, ils sont aidés. À l'époque, ils ont essayé de m'apprendre français, moi j'ai dit, bon, ça ne va pas, je ne vais jamais aller à Paris, et malheureusement, pas malheureusement, heureusement. Et après, c'est Francis Bueb qui est venu.
Francis Bueb,
oui. Et c'est lui qui a créé, au début, il a créé une galerie dans rue Titova. Et comme je faisais les expos à cette époque, c'est lui qui m'a dit, bah, tu dois venir à Paris, tu dois montrer tes photos là-bas, blablabla. Et moi, j'ai résisté jusqu'au dernier moment où ma carte était presque à la fin, on propose la carte avec laquelle tu peux sortir.
Ah, la carte, sortir du pays, tu veux dire?
Oui, pas d'avion.
Ah oui, d'accord. Ah oui, il y avait une carte spéciale pour sortir.
Bah,
à ce
c'est
moment-là.
C'est carte d'un profond.
Nations
Unies, comme la presse. Et comme ça, c'est Francis qui m'a ramené souvent là-bas les bouquins, des séries, photopoches, de Centre National de la Photo, tout ça. Et après, je suis dans cette collection.
C'est super.
Ma photopoche. Mais il y a eu un petit peu à gauche, à droite, mais pas trop. Moi, j'étais locaux avec les gens.
Ouais, t'étais plutôt avec les gens, restais plutôt... c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ta relation donc avec l'étranger, avec la France notamment. Tes clichés concernant, je reviens notamment sur tes photographies de manif pour la paix en France. Donc on a parlé de la réception de ces photos-là en Bosnie-Herzégovine, mais en France, quand tu as montré ces photos pour la première fois ou les premières fois que tu as montré ces photos-là, quelles ont été est-ce que tu te souviens des réactions du public français là pour le coup?
Je pense qu'on était... Est-ce que c'était la première fois on a travaillé une expo là-bas, dans Paris 3? C'était Saint-André Malraux, à la barre rue Saint-Onge. Bah aussi, c'était au début, tout le monde a regardé que photos de la guerre. Mais première fois qu'il y a quelqu'un qui montre quelque chose d'autre. Et c'était vraiment, tout le monde était surpris. Comment c'est possible après? Parce que dans les photos, on voit des dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées pour demander la paix, tout ça. Et ma réaction, c'est comme réaction, comme pour tout, parce que mon travail, c'est la guerre, oui, mais moi, j'ai photos avant la guerre, après la guerre. Moi, j'essaie vraiment de parler de chaque détail, c'est pas que la guerre ou la guerre, c'est 3 ans et la vie, Sarajevo, tout ça, ça existe avant et après. Comme ça, j'ai vraiment un autre regard par rapport aux autres photographes et journalistes, et bien sûr que les gens ont été tellement intéressés pour voir et pour parler de toute cette époque.
Mm-hmm. Moi, ce qui m'a marqué dans tes photos, je me souviens des clichés de, enfin, l'expression des visages pendant ces manifs avec ces portraits de Tito. Alors, tu as fait une série sur les portraits avec les balles, voilà, dans les portraits de Tito qui sont assez impressionnantes. Mais vraiment, l'expression de toute cette foule, de tous ces gens, tu disais, enfin, des milliers de personnes qui se rassemblent. Et donc, tu arrivais à capter vraiment l'expression de ces visages. Toi, dans ta recherche, je sais pas si tu as une recherche esthétique ou plutôt tu voulais montrer, en fait, que ça existait, parce qu'on a souvent des clichés de guerre, en tout cas de la guerre de Bosnie, d'un point de vue de européen occidental, on a des photos en tête, mais tes photos à toi montrent au contraire que les gens étaient présents, ils étaient dans la rue, ils voulaient vraiment montrer que c'était encore possible et que
moi j'étais aussi avec moi, je ne suis pas venu chercher spectacle, mais j'étais vraiment avec ces gens et je comprends tout ça. Je vois chaque visage, même aujourd'hui, j'ai chaque expression et on était vraiment dans un autre monde, un autre système. On a vécu bien dans la Yougoslavie, on n'a pas compris tellement pourquoi maintenant quelqu'un qui veut détruire la Yougoslavie et tout ça. Et bien sûr que les gens, ils ont eu envie de s'exprimer, de dire non à la guerre, non au nationalisme, non au partage de la Bosnie, de la Yougoslavie, non à la construction de cantons ou au nettoyage ethnique, tout ça. Mais j'étais déjà un photographe avec beaucoup d'expérience, mais ça, c'était dans les manifs, mais si je suis dans les concerts, je fais aussi portrait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de soit joie, soit de quelque chose. Comme ça, je sais vraiment, j'ai vraiment senti chaque... J'ai regardé le visage, tout ça, je savais très bien qu'est-ce que je dois faire, soit montrer cette masse, mais soit par chaque personne qui s'exprime, qui crie, qui pleure, où il y a tristesse, tout ça. Et moi, je savais très bien, et je voyais très bien, parce que j'étais avec.
Mm-hmm. Oui, tu étais avec les gens.
Oui, moi, je suis avec les gens. Moi, je ne me cache pas derrière tel objectif, quelque part loin. Moi, je suis avec. Mm-hmm.
Tu es dans la foule.
Si je suis dans un match de foot, moi, j'attends chaque cri de public ou tout ça. Moi, ouais. Je suis vraiment présent.
Ouais.
Je viens pas juste pour assister. Moi, je suis là pour témoigner, pour faire des photos. Et mm-hmm. pas juste quelques clichés, mais mm-hmm. cassés. Moi, je viens premier et je repars dernier. Ça, c'est un petit peu mon système. C'est pas que pour les manifs, pour les concerts, pour les... Je ne sais pas si je vais à un festival de trompette de Gucha ou je ne sais pas si j'ai fait quelque chose. J'essaie de suivre vraiment 100% des dons et je vois chaque côté, chaque détail que je peux photographier.
Mm-hmm. Ben, c'est intéressant de voir que, en fait, bon, tu as photographié ces manifs pour la paix, mais aussi tout. Enfin, moi, j'ai en tête les photos de concerts, notamment. En fait, pour toi, que ce soit une foule de manifestants pour la paix ou une foule qui suit un concert, finalement, y a tellement d'expressions de visages différents, il y a tellement de façons de réagir à tout ça, que toi, tu y allais et tu y vas encore parce que tu es toujours actif, tu photographies toujours actuellement. Et en fait, voilà, toi, t'es vraiment... comme tu dis, avec les gens, avec le public, tu te mets pas à côté. Et en fait, t'as vécu quand même ces moments-là qui restent des moments particuliers, même si tu dis qu'évidemment le quotidien prenait le dessus, qu'il fallait bien vivre et qu'il fallait chercher de quoi boire ou de quoi développer tes photos. Et c'est vrai que c'est un rapport, en fait, un rapport à l'autre et à la photographie que tu as développé avec le temps et qui sont ta entre guillemets ta marque de fabrique, en fait.
Pas, c'est comme ça, moi, je cherche pas, je fais pas de photo safari. Même à Paris, si je viens dans un café, moi, le premier café que j'ai photographié, j'ai passé 6 mois sans sortir de mon appareil, sans faire aucune photo. Et après, dès que j'ai connu tout le monde, après, j'ai commencé à faire des photos. Mm-hmm. Mais jouer aux échecs aussi, bah, j'ai une année, on a joué, j'ai jamais fait aucune photo. Et après, dès qu'on est devenu pote, ami, après, je faisais les photos. Et comme ça, c'était un petit peu... Moi, j'ai fait photo autour de moi, de mon histoire. Pas, je ne cherche pas maintenant aller loin, loin pour chercher spectacle ou safari ou ça. Non, 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 non. Moi, j'essaie juste autour de moi et je ne comprends pas beaucoup des photographes de Paris qui partent d'ici parce qu'à Paris, il y a tellement de choses à photographier. Mais juste, il faut un petit peu être dedans.
Mm-hmm.
Pas de touriste, mais il faut vraiment connaître et ça va, ça. On peut toute la vie rester à Paris, photographier les choses magnifiques.
Alors, on reste à Paris, mais on va se balader musicalement. Cette fois-ci, on va écouter un autre grand chanteur qui s'appelle Safet Isofitch. On va écouter Dva Morica. Morica, pardon, excusez-moi. Merci.
Ça aussi, c'est le film de Kusturica. Papa en voyage d'affaires.
Ah oui, papa est parti en voyage d'affaires.
Pavle Vucic, oui. Il chante là-bas. Chargia.
Donc, on va écouter ça et on revient vers la photo et les manifs tout à l'heure.
Bijou, bijou, pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts.
Alors, on va pas écouter Safet Isofitch, on va écouter une chanson du film d'Emir Kusturica, Sechashli se Dolibel. Te souviens-tu de Dolibel? Et cette chanson s'appelle Na Morskome Plavom Jalu.
Klikel.
Na Morskome Plavom Jalu. Gdje čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio. Oh, kako sam sretan bio. Na morskome plavom žaru, gdje čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio. O, kako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, drhtale su usne njene, a u mome zagrljaju. Kala je ljubečenje, ovdje mi je još jedare sresti, da je pitam da me ona voli, da joj kažem da me srce boli i da je bez nje.
morskome plavom žaru, gdje Čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu smio. O kako sam sretan bio, i dok sam joj govorio, trhtale su sve njene, a u mome zagrljaju, plakala je ljubeć mene. Oh, da mi je još jedanec sresti, da je pitam da me ona voli.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu.
Alors, on revient vers le rapport à la photographie. Donc, on parlait des photos, des manifs pour la paix, des photos de concerts, de spectacles, etc. Moi, j'ai une question un peu bête à te poser, qu'on t'a déjà posée plusieurs fois. Et j'y reviens parce que ça m'intéresse. Pourquoi as-tu décidé de photographier donc, ces moments-là en noir et blanc, plutôt qu'en couleur ?
Moi, j'ai appris de faire un noir blanc. Je vois les choses comme ça. Je suis toujours argentique. Je fais toujours sur pellicule. Je développe les films. Je fais mes tirages. Je fais maintenant, il faut scanner, retoucher, tout ça. J'aime bien faire tout avec mes mains et contrôler les choses de A à Z. Parce que noir blanc, mais il y a tellement de couleurs entre noir et blanc qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est vraiment quelque chose où je peux mieux exprimer qu'avec couleur.
Mmh. Ouais, parce qu'en fait, je pensais à ça tout à l'heure, mais c'est vrai que la couleur. Alors, je reviens à ce moment-là, au siège de Sarajevo. C'est vrai que je me posais la question. Peut-être, je me disais, le noir et blanc permet d'atténuer en fait les couleurs, notamment la couleur du sang, la couleur rouge.
Mais non. Mmh. Non. C'est ça donne une autre force qui est beaucoup plus forte que couleur. Mmh.
Quand tu allais photographier dans les rues de Sarajevo, est-ce que, alors j'imagine que tu échangeais beaucoup avec les gens, alors peut-être pas parce que tu disais que les gens justement il y avait une panique en général dans les rues, mais
non, pas toujours. Dès qu'on se voit déjà, ça veut dire qu'on est en vie, on est déjà très heureux de se rencontrer. Mm-hmm. Et il y a toujours l'échange, est-ce que tout le monde va bien, quelqu'un est parti, quelqu'un qui est resté, ou on peut trouver quelque chose. Non, on a parlé aussi, discuté, c'est pas...
Okay.
Bah après, s'il y a des problèmes, s'il y a des tirs, ou s'il y a de... Comment on dit que... pour nous récupérer les gens dans la rue, tout ça, on savait, mais dès que tu vois danger, casse-toi.
Ouais. Ouais, donc tu
ça,
savais,
c'est, il
ouais.
n'y avait pas de règles, mais on a chacun eu sa philosophie, sa route, ses méthodes, où passer, comment on a pensé que ça peut nous sauver. Comme ça, on a vécu, on a se déplacé, mais dès qu'on se voit, on a quand même, si on est bien un petit peu protégé, ça va.
On
a resté, on a discuté. Après, dès qu'on est dans les caves, dans les bars ou là-bas, on reste jusqu'à 10 heures. Mm-hmm. Ça va.
Tu parlais de Francis Bueb tout à l'heure. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller, je crois qu'il est arrivé, il avait créé un espace justement d'échange, pouvoir écouter de la musique, lire, un petit espace culturel à ce moment-là. Est-ce que...
Non, au début, il n'y a eu que cette galerie-librairie à Rue Titova, où il y a eu pas mal de livres sur Sarajevo, tout ça, et après qu'il m'a ramené les autres livres. À cette époque, je n'ai pas parlé français, mais j'ai regardé beaucoup de livres, qu'est-ce qu'il m'a ramené. Après, il est revenu aussi avec Gérard Rondeau, c'est un aussi grand photographe. Malheureusement, il n'est pas avec nous. On a assez mieux compris, même sans français, sans parler français, parce que les photographes, quand même, on parle beaucoup d'images, de tout ça. Après, il a réuni, l'autre Vincent Fritschi, avec Francis, avec qui je suis après devenu vrais amis, après que c'est lui, ici à Paris, qui m'a loué son salle de bain pour faire les tirages, tout ça. On est donc pas loin d'ici, sur les canals, tout ça. Comme ça, c'était vraiment une expérience avec Francis, même après la guerre, quand on est sorti. Ici, on a travaillé beaucoup, il a travaillé tellement pour Sarajevo, souvent pour envoyer les paquets, tout ça, on a aidé, mais après pour faire des expos, tout ça, il était vraiment quelqu'un cultivé, vie, mais engagé, il a toujours trouvé moyen de faire quelque chose et de ramener à Sarajevo ou après à Stolac ou de faire ici dans la barre du Saint-Ange ou quelque part. Après, il y a eu de anniversaire à Beaubourg, après chez Agnès B. Grâce à lui, on pouvait raconter tous les stars ou les gens qui ont été engagés pour la Bosnie, pour Sarajevo.
Ouais, donc tu as pu rencontrer, j'imagine que tu as rencontré des tas de personnes depuis que tu es photographe. Est-ce que y a un moment particulier à Paris ou en France dont tu te souviens, une exposition en particulier ou une rencontre particulière liée justement à ces photographies-là, parce que voilà, ici on n'a pas connu la guerre c'est 1945, mais je veux dire, est-ce que tu...
Il y a eu tellement de choses, tellement de rencontres, peut-être première rencontre avec Michel Cristalon. Après, avec Robert Delpire, après toutes ces expos, après beaucoup de différents gens, après Jacques Borgetto à Paris 3 là-bas où je faisais beaucoup des expos. Il y a eu, après, beaucoup de Parisiens, tous mes potes de café là-bas. Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre compagnie. Il y a eu vraiment tellement de rencontres, tellement de gens cool, sympas, après comme... Aussi, je ne suis pas commercial, je vis à gauche, à droite, mais dès que les gens ici aussi, dès qu'ils ont voyé qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, ils sont tout le monde essayé de m'aider, de faire ça. Ça, c'est vraiment une autre expérience et ça, c'est vraiment vrai Paris. Il y a les vrais Parisiens qui sont là pour s'engager aussi côté Sarajevo, mais aussi personnellement et même aujourd'hui. Même ils sont maintenant à 20 ans, déjà, ils sont là-bas, ils m'attendent qu'on se voit. Dès qu'on a besoin de faire un catalogue, une expo, écrire un texte, tout ça, c'est vraiment... J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer tellement de gens qui sont toujours là.
Et des gens qui sont touchés par ton travail et aussi plusieurs générations de personnes aussi.
Oui, aussi, mais ils essayent de me... Comment dire pas privatisé, comme toujours. Maintenant, ils parlent que je suis chronique de Sarajevo. Maintenant, ils disent non, tu es pas que Sarajevo, tu es maintenant notre chronique, tu es notre histoire, notre mémoire, parce que j'ai tout le monde dans Paris, toi là-bas, tout le monde est sur les photos, tous les cafés, tous les gens au marché là-bas, les enfants rouges.
Les enfants rouges, oui, tout
ça. J'ai photos de tout le monde.
La photographie, alors je ne vais pas dire que la photographie c'est l'absence de mouvement, parce que tu as réussi à capter, à capturer des
non,
mouvements.
Non, il y a des mouvements dans la photo aussi.
Je voulais venir à ça. Qu'est-ce qui dans la photo, quel est le rapport que tu peux avoir à la photographie? Donc tu dis la photographie c'est le mouvement aussi, évidemment. C'est pas
ça dépend de la série. Pour chaque sujet, il faut une approche différente. Ça veut dire dès que je fais photo les portraits dans un café, tout le monde est cool. Soit on ne sait pas est-ce qu'il pose ou il ne pose pas, parce qu'on est tellement dedans, on a tellement l'habitude les unes aux autres. Et dès que je sors l'appareil, personne ne réagit plus. Après la série Paris la nuit, ça bouge expressément. Après, beaucoup de photos de cimetières sont floues. On ne sait pas est-ce que ça, c'est la suite de travail de Sarajevo, de la guerre, de tombes non name et les autres photos sur les tombes où on ne voit plus de visage. Tout est fait exprès, tout est contrôlé par rapport au sujet. Parce que Paris, j'ai une histoire de la nuit avec la jazz, tout ça, c'est dans le mouvement de jazz. Les photos floues sont vraiment quelque chose. On ne sait pas est-ce que c'est l'ombre, est-ce que c'est vraie personne, parce que ça colle sur les images, sur les tombes non-name où on a juste petit morceau avec non-NN et juste numéro, on voit personne. Moi, je sais qui sont dedans, mais je ne sais pas qui est qui. Dedans, comme ça, après il y a vraiment les portraits classiques, studio avec éclairage, comme un jouer dans ces échecs où tout le monde essaie d'être grand philosophe.
Donc il y a une volonté de ta part, en fait, tu contrôles, oui. En fait, si c'est flou, si c'est pas flou.
Oui, j'essaie vraiment de contrôler. Après, avec les souvenirs de Sarajevo, j'ai photographié les objets, qu'est-ce que les gens de Sarajevo gardent comme meilleur souvenir de sa vie d'avant de Sarajevo. Et après, chacun était obligé d'écrire un texte. Après, dans un café là-bas, Petit Trou de Bretagne, j'ai demandé quelles photos vous gardez avec vous dans votre porte-monnaie, et quelles personnes à qui vous pensez et qu'on ne voit jamais ici. Mm-hmm. Et j'ai photographié la photo et après tout le monde a écrit dedans. Il y avait un cliché. Et après, chez Josette, elle était comme on était tellement fou et libre dans le petit trou. Chez Josette, ah non, c'était pas possible. Josette, elle était comme ça. Et après, toutes les photos sont chez Josette, même cadre. Ben, tu es aussi dans cette collection, avec les rideaux, avec les reflets de salle dans vitrine, et c'est que la nuit que je faisais les photos. Après, au Tizi, là-bas, c'est éclairage, ces petits spots, je ne sais pas, tellement délicat pour faire les photos, et ça donne une autre ambiance, et une autre série de photos. Chaque situation, chaque lieu a quelque chose de spécifique qu'il faut entrer dedans et après tu décider.
Tu as réussi à créer une atmosphère, une ambiance pour chaque série en fait, de photos et Paris après, la nuit.
Après aussi, tambour chien de comptoir qu'on a fait à Saint-Gervais à côté du musée de Picasso. Bah, écoutez, on a photographié que le chien, plutôt tambour et ses invités. Et c'était une expo magnifique. Comme ça, c'est. Il y a toujours. Il faut bien voir, il faut bien réagir, bien transférer qu'est-ce qu'on voit sur les photos et bien présenter ça.
On va revenir en musique avec un autre chanteur qui s'appelle Khalid Beslitch,
Beslitch,
qui s'appelle Sarajevo Grade Moj, Sarajevo ma ville. On vous laisse écouter cette chanson.
Grade moj, Sarajevo, grade moj, njoj sam dao. sve što sanjam, svjetla tvoja, Sarajevo, srećo moja. Sve što sanjam, svjetla tvoja, Sarajevo, srećo moja.
Alors pour terminer avec cette émission, je voulais remercier Milomir. Je ne t'ai pas posé la question, je n'ai pas eu le temps de te poser la question. Est-ce que tu te considères comme un artiste engagé? Parce qu'il me semble que ça va de soi, à moins que tu me...
On essaye. On essaye de faire quelque chose engagé. Bien sûr, après, est-ce que ça l'est fait ou pas? Mm-hmm. C'est une autre histoire, mais... J'essaie de faire vraiment de quelque chose d'humain, soit engagé comme on a fait avant, soit aujourd'hui de montrer, même si c'est petites photos de bar ou les portraits de joueurs d'échecs ou je ne sais pas quoi, il y a toujours une idée derrière tout ça. Mm-hmm. Plutôt positif.
Mm-hmm. Mais écoute, je voulais te remercier vivement. Et évidemment, tes photographies sont à découvrir et à redécouvrir pour celles et ceux qui les connaissent déjà. Et voilà, je te souhaite plein de beaux projets, de nouvelles choses à découvrir et au plaisir de te recevoir ici parmi Radio Libertaire.
Merci à toi. Et bien sûr qu'il y a pas mal de projets. On va continuer. On ne s'arrête jamais.
Merci beaucoup, Milo.
Merci à Marie, merci à Milo. On se retrouvera la semaine prochaine pour notre émission de Civi Pacem avec l'Union Pacifiste. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4.
Vais contar. São tantas as parcelas para somar. Qualquer pequena história ao virar da esquina. Guatemala, Indonésia, Argentina, Jenin e Hiroshima. Conta, contador, que essas contas contarão. Aí nessa rua a seguir a tua sangue lá.
contar. Melhor será saber recomeçar, que os mortos do império vão voltar.
C'est Jazz Lib en direct des studios Radio Libertaire 89.4 FM Paris et DAB+, car nous sommes passés à la modernité. Numéro du studio 01 43 71 89 40, Yves au micro et Franck à la technique, à la réalisation technique. Une émission consacrée aux nouveautés. Alors n'oubliez pas, je vous le redis à chaque fois, mais c'est une obligation de télécharger la souscription, car nous avons besoin de votre soutien pour maintenir la radio de qualité. Vous avez les programmes sur l'agenda de radiolibertaire.net. Vous pouvez les podcaster ou les télécharger pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Vous avez donc l'ensemble de la grille des émissions. Et vous pouvez consulter ma page Yves Jazzlib Facebook de temps en temps sur Insta, mais très très rarement. Et puis, que vous dire de plus ? Rien de particulier. Alors, si je voulais vous donner un certain nombre d'informations sur les concerts, alors il y a plein de festivals en ce moment, Festival Saint-Germain-en-Laye, Festival, concert à Jazz Club de l'Étoile, bon, enfin, il y a une programmation absolument absolument géniale partout. Il y a un nouveau festival qui vient de sortir qui s'appelle Jazz Odor, Swing Summit Festival, Jazz et Gastronomie, première édition. Donc c'est à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, donc vous pouvez vous connecter sur donc je vous le redis, Jazz Odor, Swing Summit Festival, Jazz et Gastronomie, première édition, 15